Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 12. Campement. Un peu après midi, cette terre ne se trouvait plus qu'à 1 mille. La question était de savoir si le courant n'allait pas nous entraîner au-delà. Je dois l'avouer, si nous avions eu le choix ou d'accoster ce littoral ou de continuer notre marche, je ne sais trop ce qui eût été préférable. J'en causais avec le capitaine Langy et le lieutenant lorsque Jem West m'interrompit, disant « Je vous demanderai à quoi bon discuter cette éventualité, monsieur Jeorling. » « Soit, à quoi bon, puisque nous n'y pouvons rien, » ajouta le capitaine Langy. « Il est possible que l'iceberg vienne buter contre cette côte, comme il est possible qu'il la contourne, s'il se maintient dans le courant. » « Juste, » repris-je. Mais ma question n'en subsiste pas moins. Avons-nous avantage à débarquer ou à rester ? À rester, répondit Jem West. En effet, si le canot eût pu nous emmener tous avec des provisions pour une navigation de 5 à 6 semaines, nous n'aurions pas hésité à y prendre passage, afin de piquer, grâce au vent du sud, à travers la mer libre. Mais étant donné que le canot ne suffirait qu'à 11 ou 12 hommes au plus, il aurait fallu les tirer au sort. Et ceux qu'ils n'emporteraient pas ne seraient-ils pas condamnés à périr, par le froid, sinon par la faim, sur cette glace que l'hiver ne tarderait pas à couvrir de ses frimas et de ses glaces? Or, si l'iceberg continuait à dériver suivant cette direction, ce serait une grande partie de notre route, faite dans des conditions acceptables après tout. Notre véhicule de glace, il est vrai, pouvait nous manquer, s'échouer de nouveau, culbuter même, ou tomber dans quelque contre-courant qui le rejetterait hors de l'itinéraire, tandis que le canot, en obliquant sur le vent, lorsqu'il deviendrait contraire, eût pu nous conduire au but, si les tempêtes ne l'assaillaient pas et si la banquise lui offrait une passe. Mais ainsi que venait de le dire Jem West, y avait-il lieu de discuter cette éventualité? Après le dîner, l'équipage se porta vers le plus haut bloc sur lequel se tenait Dirk Peters. À notre approche, le métis descendit par le talus opposé, et lorsque j'arrivai au sommet, je ne pus l'apercevoir. Nous étions donc tous en cet endroit, tous moins Endicott, peu soucieux d'abandonner son fourneau. La terre aperçue dans le nord dessinait sur 1/10 de l'horizon son littoral frangé de grève, coupé d'anses, dentelé de pointes, ses arrière-plans limités par le profil assez accidenté de hautes et de peu lointaines collines. Il y avait là un continent, ou tout au moins une île, dont l'étendue devait être considérable. Dans le sens de l'est, cette terre se prolongeait à perte de vue, et il ne semblait pas que sa dernière limite fût de ce côté. Vers l'ouest, un cap assez aigu, surmonté d'un morne, dont la silhouette figurait une énorme tête de phoque, en formait l'extrémité. Puis, au-delà, la mer paraissait largement s'étendre. Il n'était pas un de nous qui ne se rendit compte de la situation. Accoster cette terre, cela dépendait du courant, de lui seul. Ou il porterait l'iceberg vers un remous qui le drosserait à la côte, ou il continuerait à l'entraîner vers le nord. Quelle était l'hypothèse la plus admissible? Le capitaine Langy, le lieutenant, le bossman et moi, nous en parlions de nouveau, tandis que l'équipage, par groupe, échangeait ses idées à ce sujet. En fin de compte, le courant tendait plutôt à porter vers le nord-est de cette terre. « Après tout, nous dit le capitaine Langy, si elle est habitable pendant les mois de la saison d'été, il ne semble point qu'elle possède des habitants, puisque nous n'apercevons aucun être humain sur le littoral. « Observons, capitaine, répondis-je, que l'iceberg n'est pas de nature à provoquer l'attention, comme l'eût fait notre goélette. Évidemment, monsieur Jeorling. » Et l'Albrain aurait déjà attiré des indigènes, s'il y en avait. De ce que nous n'en voyons pas, capitaine, il ne faudrait pas conclure. Assurément, monsieur Jeorling, répliqua le capitaine Langy. Vous conviendrez seulement que l'aspect de cette terre n'est point celui de l'île Tsalal, à l'époque où la Jane l'avait accostée. On y distinguait alors des collines verdoyantes, des forêts épaisses, des arbres en pleine floraison, de vastes pâturages. Et ici, à première vue, il n'y a que désolation et stérilité. J'en conviens, stérilité et désolation, c'est toute cette terre. Je vous demanderai cependant si votre intention n'est pas d'y débarquer, capitaine. Avec le canot ? avec le canot, dans le cas où le courant en éloignerait notre iceberg. Nous n'avons pas une heure à perdre, monsieur Jeorling, et quelques jours de relâche pourraient nous condamner à un hivernage cruel, si nous arrivons trop tard pour franchir les passes de la banquise. Et étant donné son éloignement, nous ne sommes pas en avance, fit observer Jem West. Je l'accorde, répondis-je en insistant. Mais s'éloigner de cette terre sans y avoir mis le pied, sans nous être assuré si elle n'a pas conservé les traces d'un campement, si votre frère, capitaine, ses compagnons. En m'écoutant, le capitaine Lengy secouait la tête. Ce n'était pas l'apparition de cette côte aride qui pouvait lui rendre l'espoir, ses longues plaines infertiles, ses collines décharnées, ce littoral bordé par un cordon de roches noirâtres. Comment des naufragés eussent-ils trouvé à y vivre depuis quelques mois? D'ailleurs, nous avions arboré le pavillon britannique que la brise déployait à la cime de l'iceberg. William Guy l'eut reconnu, et il se fut déjà précipité vers le rivage. Personne, personne. En ce moment, Jem West, qui venait de relever certains points de repère, dit « Patientons avant de prendre une décision. En moins d'une heure, nous serons fixés à ce sujet. Notre marche me paraît s'être ralentie, et il est fort possible qu'un remous nous ramène obliquement vers la côte. » « C'est mon avis, » déclara le bosseman. « Et si notre machine flottante n'est pas stationnaire, il s'en faut de peu. On dirait qu'elle tourne sur elle-même. » Jem West et Hurliguerly ne se trompaient pas. Pour une raison ou pour une autre, l'iceberg tendait à sortir de ce courant qu'il avait constamment suivi. Un mouvement de giration avait succédé au mouvement de dérive, grâce à l'action d'un remous qui portait vers le littoral. En outre, quelques montagnes de glace, en avant de nous, venaient de s'échouer sur les bas-fonds du rivage. Donc il était inutile de discuter s'il y avait lieu ou non de mettre le canot à la mer. À mesure que nous approchions, la désolation de cette terre s'accentuait encore, et la perspective d'y subir 6 mois d'hivernage aurait rempli d'épouvante les cœurs les plus résolus. Bref, vers 5 heures de l'après-midi, l'iceberg pénétra dans une profonde échancrure de la côte, terminée à droite par une longue pointe, contre laquelle il ne tarda pas à s'immobiliser. « À terre ! À terre !» Ce cri s'échappa de toutes les bouches. L'équipage descendait déjà les talus de l'iceberg, lorsque Jem West commanda. « Attendez l'ordre !» Il se manifesta quelque hésitation, surtout de la part de Hearne et de plusieurs de ses camarades. Puis l'instinct de la discipline domina, et finalement tous vinrent se ranger autour du capitaine Lengy. Il ne fut pas nécessaire de mettre le canot à la mer, l'iceberg se trouvant en contact avec la pointe. Le capitaine Lengy, le bosseman et moi, précédant les autres, nous fûmes les premiers à quitter le campement, et notre pied foula cette nouvelle terre, vierge sans doute de toute empreinte humaine. Le sol volcanique était semé de débris pierreux, de fragments de lave, d'obsidienne, de pierres ponces, de scories. Au-delà du cordon sablonneux de la grève, il allait en montant vers la base de hautes et âpres collines, qui formaient l'arrière-plan à 1/2 mille du littoral. Il nous parut indiqué de gagner l'une de ces collines, d'une altitude de 1200 pieds environ. De son sommet, le regard pourrait embrasser un large espace, soit de terre, soit de mer, dans toutes les directions. Il fallut marcher pendant 20 minutes sur un sol rude et tourmenté, dépourvu de végétation. Rien ne rappelait les fertiles prairies de l'île Tsalal, avant que le tremblement de terre l'eût bouleversé, ni ces forêts épaisses dont parle Arthur Pym, ni ces rios aux eaux étranges, ni ces escarpements de terre sabonneuse, ni ces massifs de stéatite où se creusait l'hiéroglyphique labyrinthe. Partout des roches d'origine ignée, des laves durcies, des scories poussiéreuses, des cendres grisâtres, et pas même ce qu'il aurait fallu d'humus aux plantes rustiques les moins exigeantes. Ce n'est pas sans difficulté et sans risque que le capitaine Lengy, le bosseman et moi, nous parvînmes à faire l'ascension de la colline, ce qui nous prit une grande heure. Bien que le soir fût arrivé, il n'entraînait aucune obscurité à sa suite, puisque le soleil ne disparaissait pas encore derrière cet horizon de l'Antarctique. Du sommet de la colline, la vue s'étendait jusqu'à 30 ou 35 milles, et voici ce qui s'offrait à nos yeux. En arrière se développait la mer libre, charriant nombre d'autres montagnes flottantes, dont quelques-unes venaient de s'entasser récemment contre le littoral, et qui le rendaient presque inabordable. À l'ouest courait une terre très accidentée, dont on ne voyait pas l'extrémité, et que baignait à l'est une mer sans limite. Étions-nous sur une grande île, ou sur le continent antarctique, il eût été impossible de résoudre la question. Il est vrai, en fixant plus attentivement dans la direction de l'est, la lorgnette marine, le capitaine Lenghi crut apercevoir quelques vagues contours, qui s'estompaient entre les légères brumes du large. « Voyez, » dit-il. Le bosseman et moi nous prîmes tour à tour l'instrument et nous regardâmes avec soin. « Il me semble bien, » dit Hurliguerly, « qu'il y a là comme une apparence de côte. »« Je le pense aussi, » répondis-je. « C'est donc bien un détroit, à travers lequel nous a conduit la dérive, » conclut le capitaine Lenghi. « Un détroit, » ajouta le bosseman, « que le courant parcourt du nord au sud, puis du sud au nord. » « Alors ce détroit couperait donc en deux le continent polaire ?» demandai-je. « Nul doute à cet égard, » répondit le capitaine Lenghi. « Ah, si nous avions notre Holbrain !» s'écria Hurliguerly. Oui, à bord de la goélette, et même sur cet iceberg, maintenant à la côte comme un navire désemparé, nous aurions pu remonter encore de quelques centaines de milles, peut-être jusqu'à la banquise, peut-être jusqu'au cercle antarctique, peut-être jusqu'aux terres avoisinantes. Mais nous ne possédions qu'un fragile canot, pouvant à peine contenir une douzaine d'hommes, et nous étions 23. Il n'y avait plus qu'à redescendre vers le rivage, à regagner notre campement, à transporter les tentes sur le littoral, à prendre toute mesure en vue d'un hivernage que les circonstances allaient nous imposer. Il va de soi que le sol ne portait aucune empreinte de pas humains, ni aucun vestige d'habitat. Que les survivants de la Jane n'eussent point mis les pieds sur cette terre, sur ce domaine inexploré, comme le qualifiaient les cartes les plus modernes, nous ne pouvions désormais l'affirmer. J'ajouterai, ni eux, ni personne, et ce n'était pas encore cette côte où Dirk Peters retrouverait les traces d'Arthur Pym. Et cela résultait également de la quiétude que montraient les seuls êtres vivants de cette contrée, qui ne s'effrayaient point de notre présence. Ni les phoques ni les morses ne plongeaient sous les eaux. Les pétrels et les cormorans ne s'enfuyaient pas à tire-d'aile. Les pingouins restaient en rangée immobile, voyant sans doute en nous des volatiles d'une espèce particulière. Oui, c'était bien la première fois que l'homme apparaissait à leur regard, preuve qu'il n'abandonnait jamais cette terre pour s'aventurer sous de plus basses latitudes. De retour au rivage, le bosseman découvrit, non sans une certaine satisfaction, plusieurs spacieuses cavernes évidées dans les falaises granitiques, assez grandes, les unes pour nous loger tous, les autres pour abriter la cargaison de l'Holbrain. Quelle que fût la décision que nous aurions à prendre ultérieurement, nous ne pouvions faire mieux que d'y emmagasiner notre matériel et de procéder à une première installation. Après avoir remonté les pentes de l'iceberg jusqu'au campement, le capitaine Lenghi donna ordre à ses hommes de se réunir. Pas un ne manqua, si ce n'est Dirk Peters, qui avait décidément rompu toute relation avec l'équipage. En ce qui le concernait, au surplus, il n'avait, ni sur l'état de son esprit, ni sur son attitude en cas de rébellion, aucune crainte à concevoir. Il serait avec les fidèles contre les révoltés, et nous devions en n'importe quelle circonstance compter sur lui. Lorsque le cercle eut été formé, le capitaine Lenghi s'exprima, sans laisser voir aucun symptôme de découragement. Parlant à ses compagnons, il leur chiffra la situation. Jusqu'au décimal, pourrait-on dire. Nécessité qui s'imposait, d'abord, de descendre la cargaison à terre et d'aménager une des cavernes du littoral. Sur la question de la nourriture, affirmation que les vivres, farine, viande de conserve, légumes secs, suffiraient à toute la durée de l'hiver, si long qu'il pût être, et quelle que fût sa rigueur. Relativement à la question du combustible, déclaration que le charbon ne manquerait pas, à la condition de ne point le gaspiller, et il serait possible de le ménager, puisque sous le tapis de neige et le couvert des glaces, les hiverneurs peuvent braver les grands froids de la zone polaire. Sur ces deux questions, le capitaine Lenghi donna donc des réponses de nature à bannir toute inquiétude. Son assurance était-elle feinte? Je ne le crus pas, d'autant que Jem West approuva ce langage. Restait une troisième question, grosse, celle-là, de pour et de contre, bien faite pour provoquer les jalousies et les colères de l'équipage, et qui fut soulevée par le Sealing Master. Il s'agissait en effet de décider de quelle façon serait employée l'unique embarcation dont nous pouvions disposer. Convenait-il de la garder pour les besoins de l'hivernage ou de s'en servir pour revenir vers la banquise? Le capitaine Lenghi ne voulut point se prononcer. Il demanda seulement que la décision fût remise à 24 ou à 48 heures. On ne devait pas oublier que le canot, chargé des provisions nécessaires à une assez longue traversée, ne pouvait contenir que 11 à 12 hommes. Il y avait donc lieu de procéder à l'installation de ceux qui resteraient sur cette côte si le départ du canot s'effectuait, et dans ce cas, on tirerait ses passagers au sort. Le capitaine Lenghi déclara alors que ni Jem West, ni le bossman, ni moi, ni lui, nous ne réclamerions aucun privilège et subirions la loi commune. L'un comme l'autre, les deux maîtres de l'Holbrane, Martin Holt ou Hardy, étaient parfaitement capables de conduire le canot jusqu'au lieu de pêche, que les baleiniers n'auraient peut-être pas encore quitté. Au surplus, ceux qui partiraient n'oublieraient pas ceux qu'ils laisseraient en hivernage sur ce 86e parallèle, et au retour de la saison d'été, ils enverraient un navire afin de recueillir leurs compagnons. Tout ceci fut dit, je le répète, d'un ton aussi calme que ferme. Je dois lui rendre cette justice. Le capitaine Lenghi grandissait avec la gravité des circonstances. Lorsqu'il eut achevé, n'ayant point été interrompu, pas même par Hearne, personne ne fit entendre la moindre observation. À propos de quoi s'en fut-il produit, puisque, le cas échéant, on s'en remettrait au sort dans des conditions parfaites d'égalité. L'heure du repos venue, chacun rentra au campement, prit sa part du souper préparé par Endicott et s'endormit pour la dernière nuit sous les tentes. Dirk Peters n'avait pas reparu, et ce fut vainement que je cherchais à le rejoindre. Le lendemain, 7 février, on se mit courageusement à la besogne. Le temps était beau, la brise faible, le ciel légèrement brumeux, la température supportable, 46 degrés, 7,78 degrés centigrades sur zéro. En premier lieu, le canot fut descendu à la base de l'iceberg, avec toutes les précautions que cette opération exigeait. De là, les hommes le tinrent au sec, sur une petite grève sablonneuse, à l'abri du ressac. En parfait état, on pouvait compter qu'il se prêterait à un bon service. Le bossman s'occupa ensuite de la cargaison, ainsi que du matériel provenant de l'Holbrane. Mobilier, literie, voilure, vêtements, instruments, ustensiles. Au fond d'une caverne, ces objets ne seraient plus exposés au chavirement ou à la démolition de l'iceberg. Les caisses de conserve, les sacs de farine et de légumes, les fûts de vin, de whisky, de gin et de bière, déhalés au moyen de palans du côté de la pointe qui se projetait à l'est de la crique, furent transportés sur le littoral. J'avais mis la main à l'ouvrage, tout comme le capitaine Lenghi et le lieutenant, car ce travail de la première heure ne souffrait aucun retard. Je dois mentionner que Dirk Peters vint ce jour-là donner un coup de main, mais il n'adressa la parole à personne. Avait-il renoncé ou non à l'espoir de retrouver Arthur Pym? Je ne savais que penser. Les 8, 9 et 10 février, on s'occupa de l'installation, qui fut achevée dans l'après-midi de ce dernier jour. La cargaison avait trouvé place à l'intérieur d'une large grotte, où l'on accédait par une étroite ouverture. Elle confinait à celle que nous devions habiter, et dans laquelle, sur le conseil du bossman, Endicott établit sa cuisine. De cette façon, nous profiterions de la chaleur du fourneau, qui servirait à la cuisson des aliments et au chauffage de la caverne, pendant ces longues journées, ou plutôt cette longue nuit de l'hiver austral. Déjà depuis le 8 au soir, nous avions pris possession de cette caverne, aux parois sèches, aux tapis de sable fin, suffisamment éclairée par son orifice. Située près d'une source, à l'amorce même de la pointe avec le littoral, son orientation devait l'abriter contre les redoutables rafales, les tourmentes de neige de la mauvaise saison. D'une contenance supérieure à celle qu'offraient les roufs et les postes de la goélette, elle avait pu recevoir, ainsi que la literie, divers meubles, tables, armoires, sièges, mobilier suffisant pour quelques mois d'hivernage. À Alors que l'on travaillait à cette installation, je ne surpris rien de suspect dans l'attitude de Hearn et des Falklandais. Tous firent preuve de soumission à la discipline et déployèrent une louable activité. Néanmoins, le métis fut maintenu à la garde du canot, dont il aurait été facile de s'emparer sur la grève. Hurliguerly, qui surveillait particulièrement le Sailing Master et ses camarades, paraissait plus rassuré au sujet de leur disposition actuelle. Dans tous les cas, il ne fallait pas tarder à prendre une décision relativement au départ, s'il devait avoir lieu, de ceux qui seraient désignés par le sort. En effet, nous étions au 10 février. Encore un mois ou 6 semaines, la campagne de pêche serait terminée dans le voisinage du cercle antarctique. Or, s'il ne rencontrait plus les baleiniers, en admettant qu'il eût heureusement franchi la banquise et le cercle polaire, notre canot n'aurait pu affronter le Pacifique jusqu'au rivage de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Ce soir-là, après avoir réuni tout son monde, le capitaine Lenghi déclara que la question serait discutée le lendemain, ajoutant que si elle était résolue d'une manière affirmative, le sort serait immédiatement consulté. Cette proposition n'amena aucune réponse, et à mon avis, on n'aurait de sérieuses discussions que pour décider si, oui ou non, le départ s'effectuerait. Il était tard. Une demi-obscurité régnait au dehors, car à cette date, le soleil se traînait déjà au ras de l'horizon, sous lequel il allait bientôt disparaître. Je m'étais jetée sur ma couchette, tout habillée, et je dormais depuis plusieurs heures lorsque je fus réveillée par des cris, qui éclatèrent à petite distance. D'un bond, je me relevai. Je m'élançai hors de la caverne en même temps que le lieutenant et le capitaine Lenghi tiraient comme moi de leur sommeil. « Le canot ! Le canot !» s'écria tout à coup Jem West. Le canot n'était plus à sa place, à l'endroit où le gardait Dirk Peters. Après l'avoir lancé à la mer, 3 hommes s'y étaient embarqués, avec des fûts et des caisses, tandis que 10 autres essayaient de maîtriser le métis. Hearn était là, et aussi Martin Holt, qui, me sembla-t-il, ne cherchait pas à intervenir. Ainsi donc ces misérables voulaient s'emparer de l'embarcation et partir avant que le sort eût prononcé. Ils voulaient nous abandonner. En effet, ils étaient parvenus à surprendre Dirk Peters, et ils l'auraient tué, s'il n'eût défendu sa vie dans une lutte terrible. En présence de cette révolte, connaissant notre infériorité numérique, ne sachant s'ils pouvaient compter sur tous les anciens du bord, le capitaine Lenghi et le lieutenant rentrèrent dans la caverne, afin d'y prendre des armes pour réduire à l'impuissance Hearn et ses complices, qui étaient armés. J'allais faire comme eux, lorsque ces paroles me clouèrent soudain sur place. Accablé par le nombre, le métis venait d'être enfin terrassé. Mais à cet instant, comme Martin Holt, par reconnaissance envers l'homme qui lui avait sauvé la vie, s'élançait à son secours, Hearn lui cria « Laisse-le donc, et viens avec nous !» Le maître voilier parut hésiter. « Oui, laisse-le !» reprit Hearn. « Laisse Dirk Peters, qui est l'assassin de ton frère Ned !»« L'assassin de mon frère ?» s'écria Martin Holt. « Ton frère, tué à bord du Grand Pouce !»« Tué ? Par Dirk Peters ?»« Oui, tué, et mangé, mangé, mangé !» répéta Hearn, qui hurlait plutôt qu'il ne prononçait ces horribles mots. Et sur un signe, 2 de ses camarades se saisirent de Martin Holt et ils le transportèrent dans l'embarcation, prête à déborder. Hearn s'y précipita à sa suite avec tous ceux qu'il avait associés à cet acte abominable. En ce moment, Dirk Peters se releva d'un bond, s'abattit sur l'un des Falklandais, à l'instant où cet homme enjambait le plat-bord du canot, l'enleva à bout de bras et, le faisant tournoyer au-dessus de sa tête, lui brisa le crâne contre une roche. Un coup de pistolet retentit. Le métis, frappé à l'épaule par la balle de Hearn, tomba sur la grève, tandis que l'embarcation était vigoureusement repoussée au large. Le capitaine Lenghi et Jem West sortaient alors de la caverne. Toute cette scène n'avait à peine duré 40 secondes. Et ils accoururent sur la pointe en même temps que le bossman, le maître Hardy, les matelots Francis et Stern. Le canot, que le courant entraînait, se trouvait déjà à une encablure, la marée descendant avec rapidité. Jem West épaula son fusil, fit feu, et l'un des matelots fut renversé au fond de l'embarcation. Un second coup, tiré par le capitaine Lengi, effleura la poitrine du Sealing Master, et la balle alla se perdre contre les blocs à l'instant où le canot disparaissait derrière l'iceberg. Il n'y avait plus qu'à se porter sur l'autre côté de la pointe, dont le courant rapprocherait sans doute ces misérables avant de les entraîner dans la direction du nord, s'ils passaient à portée de fusil, si un second coup de feu atteignait le Sealing Master, lui mort ou blessé, peut-être ses compagnons se décideraient-ils à revenir. Un quart d'heure s'écoula. Lorsque l'embarcation se montra au revers de la pointe, c'était à une telle distance que nos armes n'auraient pu l'atteindre. Déjà Irn avait fait hisser la voile, et poussé à la fois par le courant et la brise, le canot ne fut bientôt plus qu'un point blanc qui ne tarda pas à disparaître.